Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Est-ce du fait des médias, des relations politiques entre les pays, des filtres divers, du nombre de morts et de disparus plus important par exemple en Argentine et au Chili? Mais les Français ont été peu ou mal informés des événements qui ont obscurci le Brésil dans les années 70. Et pourtant la guérilla a existé faisant des victimes de part et d'autre. C'est un pan de cette histoire qui nous est raconté à travers une recherche longue, tenace et éprouvante effectuée par la sœur d'un rebelle, ainsi que les poids de l'absence, de l'incertitude sur le sort de ces jeunes gens qui empêchent ceux qui restent de vivre pleinement. C'est le thème du roman intitulé « Les ombres de l'Araguaia », édité chez Métayer, et dont j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, Guillaume de Gramont.
Alors, bonjour.
Bonjour Guillaume de Gramont, bienvenue en France, bienvenue à Toulouse, parce que vous venez du Brésil. Voilà, et alors, ce que j'ai lu qui m'a très émue, c'est le...
Merci beaucoup, hein, et je suis très heureuse d'être à Toulouse, c'est une ville magnifique.
Elle a du charme, mais je sais que le Brésil a du charme aussi. Alors, vous avez fait une dédicace dans votre livre, dans votre roman, aux familles de tous les disparus politiques du Brésil, surtout à leur mère et à leur sœur.
Ouais. Oui, ouais. C'est vrai. Bon, mon livre est l'histoire de la complicité entre une mère et une sœur d'un guerriero qui s'appelle Leonardo, autour de sa disparition. Alors, c'est une blessure commune à plusieurs femmes,
oui.
Non seulement du Brésil, mais d'Amérique latine.
D'Argentine, oui,
d'autres pays d'Amérique latine aussi, Uruguay, Paraguay, et aussi partout dans le monde où on a eu des guerres.
Mais c'est vrai ce que vous dites. On a l'impression que ce sont les femmes qui font les recherches.
Oui, c'est ça. Ce sont les femmes qui font la recherche de ce qui s'est passé avec avec ces disparus, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas.
Alors, nous allons en parler. Mm-hmm. J'aurais dû vous présenter tout d'abord, Guillaume de Gramont. Vous venez donc du Brésil. Je ne sais pas, vous venez de Rio ou d'une autre ville?
De Minas Gerais, de Ouro Preto, que c'est une ville ancienne de Minas Gerais, une des plus visitées. En fait, une ville très belle dans les montagnes.
Alors, je sais que vous enseignez à l'université.
Oui.
Et que vous écrivez. Et on a dit beaucoup de bien de vos écrits. Et je suis heureuse de savoir que c'est votre premier livre traduit en France. Donc, il y en aura d'autres. Et vous avez eu le prix National Pen Club du Brésil récemment. Hein, c'était en 2017. Et alors, ce thème que vous avez choisi, cette période que vous racontez, votre famille ou votre entourage l'a vécu, l'a connu?
Oui, en fait, mon père, il était mort les années 75 d'une façon un peu mystérieuse. On ne sait pas si c'était un suicide ou si c'était un assassinat. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne connaît pas sur cette histoire. Et donc, l'histoire de Sofia, ma protagoniste, et de sa mère, a beaucoup de points en commun avec ma propre histoire, l'histoire de ma famille.
De votre famille. Alors, c'est vrai, et ça, on peut le dire à nos auditeurs, qu'il y a eu une dictature militaire au Brésil et qu'il y a eu des insurgés, il y a eu des contestataires et qu'ils ont été durement frappés. Alors, moi, je suis allée voir dans mes petites notes, il y a eu un nombre de morts important, évalué à 400 personnes, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été en prison et puis qui ont été torturés d'ailleurs. Et puis, il y en a eu 10 000 qui ont dû partir en exil. Et peut-être en France, d'ailleurs. Certains sont venus en France, je pense. Et puis, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de morts. Et là, j'ai noté, alors ça, vous le savez, je ne savais pas tout ça, qu'il y a l'ex-présidente du Brésil, qu'elle-même a été emprisonnée pendant 3 ans.
C'est vrai. Elle a été torturée aussi.
Torturée, oui.
Dilma Rousseff.
Oui.
Elle était une... Elle faisait partie d'une organisation de la résistance contre la dictature Et elle a subi des épreuves terribles,
ouais, ouais.
extraordinaires.
Et en 2009, je ne sais plus, à un moment donné, elle dit, avec émotion, elle évoque ses anciens camarades, dont un ami, et elle dit « Tu adorerais être ici avec nous aujourd'hui, parce que la dictature, évidemment, enfin est tombée, n'existe plus. » Alors, ce dont vous parlez, vous, c'est à l'intérieur de cette révolte, c'est d'un groupuscule d'étudiants.
Oui, voilà. C'était un groupe d'étudiants de São Paulo qui se sont rejoints pour essayer de créer un focus pour arriver à une révolution semblable à la révolution cubaine. Et ces focus, ils l'ont voulu créer en Amazonie,
en pleine forêt amazonienne.
C'est une région avec beaucoup de souffrances.
Oui.
Il y a les gens qui cherchent le caoutchouc, les amandes aussi amazoniennes, et qui ont des conditions terribles
de travail.
Oui. Ils subissent parfois des épreuves terribles comme des arbres qui tombent, qui les tuent, ils ne gagnent rien, ils n'ont pas de salaire, ils ne reçoivent rien pour chercher les produits en Amazonie.
Mm.
Et donc, c'est une région comme ça, où il y a beaucoup de souffrances, et ils pensaient, ces jeunes de São Paulo, les convaincre à faire la révolution et commencer par là. Et après, convaincre toute la population brésilienne à adhérer à la révolution.
C'était des jeunes utopistes, dans le fond.
Oui, bien sûr.
Et donc, leur modèle, c'était Cuba.
Oui, mais aussi cette faction qui s'est installée en Amazonie, elle était inspirée aussi de la révolution maoïste. Et donc, elle était plus rigide, il y avait une hiérarchie plus rigide. Et ma protagoniste, une de mes personnages là, elle réagit beaucoup à ça. Elle n'est pas très à l'aise dans la forêt et avec cette rigidité militaire.
Et puis le chef est terrible, on va en parler.
Oui.
On va en parler. Alors, il y en a qui ont dit que ce groupe d'étudiants, et malheureusement la majorité sont morts, mais ce groupe a été quand même, on dit, manipulé par le Parti communiste à l'époque.
Oui, surtout parce que cette faction était plus, comment je peux dire...
Extrême.
Elle avait des extrêmes, avait des principes plus rigides que les autres, des principes militaires, parce que les chefs étaient des militaires qui ont quitté l'armée pour se joindre aux guerrieros. Mais c'était des jeunes idéalistes qui voulaient le bien pour les pays, en fait. Qui voulait le changement des conditions si pauvres de la population.
C'est ça, idéaliste, peut-être, et sans doute enthousiaste, mais inconscient de tout ce que cela signifiait. Ils sont partis, ils n'étaient pas quand même très très nombreux.
Non, c'était 67 qui sont partis à cette région, et ils attendaient d'autres. Mais... les militaires, bientôt, ils ont su qu'ils étaient là. Donc, ils ont envoyé, les récits les plus modestes parlent de 5 000 soldats et les récits peut-être les plus authentiques de 10 000 qui sont partis à cette région pour chasser ces guerrieros.
Oui. Est-ce que les paysans ou les forestiers qui travaillaient là-bas, dont vous dites les conditions de vie étaient très rudes, est-ce qu'ils ont rejoint ces jeunes guerrieros?
Oui, beaucoup parmi eux.
Ah oui?
Et ils sont morts aussi, ou ils ont été torturés, quelques-uns. On a découvert maintenant plus... beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur, sur ces forestiers qui se sont rejoints aux guérilleros. Et c'était pas mal de... Oui.
Est-ce qu'on en parle plus facilement maintenant? Est-ce que vous pensez que de cette histoire, de ce drame, on en parle plus facilement maintenant, enfin? Parce que je remarque, par exemple, les problèmes, le nazisme. Je vois que la deuxième génération, ou la troisième, des petits-enfants, commence beaucoup à écrire. Je vois à Toulouse, il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Goethe-Institut, par exemple. Ça m'a frappée. Je me dis, peut-être que dans les pays où il y a eu des dictatures, les petits-enfants peuvent en parler plus facilement.
Oui, c'est la distance nous aide à mieux réfléchir sur les événements. Mais il y a un autre phénomène aussi que parfois empêche de bien réfléchir sur ces passés récents. Que c'est... On vit dans un moment où on a une sorte de retour de principes plus à la droite, plus conservateurs. Il faut revenir aux principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, chaque fois plus.
Oui, mais peut-être aussi qu'on a vu l'époque maoïste, il y a eu des dégâts quand même, hein, les maoïstes et même à Cuba. Enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi l'expérience, mais vous avez raison, il faut peut-être faire la part des choses.
Oui, ce qui se passe, c'est que, je pense que il y a vraiment, on a besoin d'une reposition des valeurs, des valeurs humaines dans la vie. Et les livres qui traitent de ces événements, parfois aussi ont passé une idée peut-être trop... sont pas nuancés, je dirais. Mon livre, il essaye de donner une idée plus nuancée. On a les guérilleros ne sont pas des héros. Ils ont commis des crimes aussi. Ils sont des idéalistes, mais il y avait quelques-uns qui non. Il y a la voix d'une femme qui voit les choses
autrement.
Et la voix d'un homme.
C'est l'intérêt de votre roman, parce que c'est un roman choral, il y a plusieurs voix. Il y a un homme, une femme qui faisait partie de ces insurgés. Il y a une sœur, la sœur d'un homme, on ne sait pas qui c'est, on verra plus tard. Et puis il y a même Marcos, qui la voix un peu de la sagesse apparemment. Donc ça recouvre plusieurs aspects de ce problème, de cette époque-là.
Oui, c'est ça. Mais une chose que j'essayais, Monique, est de ne pas laisser les romans inachevés. Et on comprend qui parle à chaque moment et il y a un scénario, comme le scénario d'un film qui perpasse, qui rejoint, qui ramasse toutes ses voix. Peu à peu, il y a des révélations qui nous font découvrir la vérité.
Voilà, parce et qu'au lecteurs, départ, on ne sait pas. On est comme Sophia. On est comme Sophia, on est dans le flou. On se dit, mais qui c'est? Voilà, alors on va peut-être en parler parce que...
C'est très bien dit, parce que c'est ce que je voulais faire. C'est mettre les lecteurs à la place de Sophia. Les lecteurs s'identifient avec Sophia et suit ses pas, ses voyages. Elle va à Cuba voir comment ils étaient entraînés. Elle va à la Araguaia, la forêt amazonienne. Elle va à São Paulo pour faire des recherches, des interviews. Et le lecteur la suit, il est avec elle, en quête de la vérité. C'est ça.
Voilà, exactement. Alors, d'emblée, vous commencez très fort, parce que d'emblée, nous sommes dans la jungle. C'est étouffant, c'est inquiétant. Ça paraît être un lieu hostile, et puis mais en même temps, il y a une forme de magie. Et on se dit, mais où on est? On est à la place de cet homme. Alors cet homme, il s'appelle A, c'est-à-dire A majuscule point. C'est tout ce qu'on sait et on comprendra pourquoi. Ils ne mettent pas de nom. Si on trouve le cahier, il ne faut pas qu'il y ait de nom pour que la police ne les trouve pas.
Bien sûr.
Alors, voilà, Guillaume-Marc, j'aimerais bien que vous nous lisiez un tout petit extrait. Alors, évidemment, les Brésiliens ont une voix qui charme, et donc ça sera... à la page 21...
J'essaierai de les lire bien.
À la page 21 et jusqu'à la fin d'une sorte de poème.
J'ai marqué les jours en faisant des encoches sur la crosse de mon fusil. J'étais perdue depuis plus d'une semaine et la réalité commençait à me paraître floue. Je devenais une pure immanence, comme un animal. Seul le présent existait. Ma vie se résumait à ce que je devais faire pour ma défense et la recherche de nourriture. Marcher dans la forêt n'était pas facile. Et me servir de ma machette n'était pas prudent. Outre le fait que je pouvais être vu, je laisserais trop de traces. J'élongeais les ruisseaux en évitant les endroits où la rivière s'élargissait, de peur d'être aperçu par les hélicoptères. Quand l'enchevêtrement des lianes dans les sous-bois devenait inextricable, je marchais dans l'eau, tentative parfois impossible, car la végétation pénétrait aussi la rivière. Par moments, je tombais dans des trous d'eau et j'étais entièrement trempée. Ces nuits-là, je tremblais de froid. Un jour, je vis une sucuri, que c'est l'énontopie du plus grand des serpents du Brésil, c'est l'anaconda, qui se faufilait à quelques pas de moi. Je me suis blessée sur les cailloux en essayant de fuir. Si elle avait voulu s'enrouler autour de moi, faible comme je l'étais, je ne m'en serais pas sortie. Une nuit, la brume a recouvert toute la forêt. J'ai dormi appuyée contre un arbre, et je me suis réveillée au milieu de la nuit en entendant une sorte de rugissement suivi d'un étrange ronronnement. Un animal que je n'avais jusqu'alors pas rencontré. Je me suis dit que c'était peut-être une jaguatirica, c'est une sorte de félin brésilien. Mais quand je me suis levée, aux premières lueurs du soleil levant, j'ai vu les traces sur les sables mouillés au bord du ruisseau. Je les ai mesurées avec ma main et je me suis rendu compte, horrifié, que l'animal qui avait veillé sur mon sommeil était un jaguar.
Voilà, oui. Alors, je vous arrête là. Merci, merci Guillaume-Marc d'avoir si bien lu. Et nous allons faire une première pause musicale et nous reprenons tout de suite après. Nous allons écouter Villa-Lobos, vous connaissez bien sûr. Je dis à nos auditeurs qu'ils ne s'y trompent pas. Villa-Lobos est bien brésilien.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, merci à Villa-Lobos de nous avoir offert, transmis cette belle musique qui est universelle finalement. Et donc nous retrouvons Louis-Omar de Gramont qui a écrit un roman intitulé « Les ombres de l'Araguilla » édité chez Métayer. Je voulais vous dire, en fait, on l'appelait, ce groupuscule d'étudiants, la guérilla de l'Araguilla. C'est ça.
C'est ça, exactement.
Oui. Alors, oui, tout à l'heure, nous disions que la description que vous faisiez de l'Amazonie, que vous êtes allé voir, que vous êtes allé à Manaus et dans la forêt amazonienne, vous ne vous êtes pas perdu, au moins.
Non, je n'étais pas perdu parce que c'est très difficile de visiter la forêt sans un guide. Oui. Il faut être avec un guide parce que c'est vraiment immense, c'est très dense, c'est tellement dense la coupe des arbres qu'on voit pas le ciel. Donc il faut vraiment être guidé là-bas.
Ah, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, vous le décrivez bien, à un moment donné, il a peur, il se perd. Et même, on va en finir par en parler, et même la jeune femme qui écrit à la suite a peur de se perdre également. Parce que, de quoi s'agit-il? En fait, il y a un cahier qui a été trouvé.
Oui.
Et vous commencez par ce cahier, et on lit les écrits d'un homme, A, il s'appelle, et il nous parle de... Il se retrouve seul, mais c'est très angoissant, cette première partie.
Oui, oui, c'est un cahier, des notes que ma protagoniste, Sophia, elle est en train de lire.
Mais on ne le savait pas au début. Au début, on ne sait pas qu'elle le lit.
D'où elle l'a trouvé, comment elle a trouvé ce cahier. Et il faut avoir patience, les lecteurs, parce que c'est 50 pages de ces récits sur l'Amazonie, sur la forêt amazonienne, les guerriers est perdus. Mais là, j'ai profité aussi pour développer un peu l'idée de la forêt comme une sorte de métaphore de la vie. Il y a beaucoup de périls, de mystères. L'homme, il est devant soi-même parce qu'il est très solitaire et la solitude lui mène à réfléchir beaucoup sur sa situation, se rappeler de ses parents, de sa famille, êtres chers.
Alors, ce que vous me dites m'évoque quelque chose. Mmh. Finalement, il vit comme une forme de dépression. Il a ce poids de la forêt, ce poids de l'angoisse, comme sa mère, sa famille, doit vivre également une forme de dépression.
Oui. En fait, Sophia, sa sœur, qui est celle qui fait les recherches pour les découvrir, je me suis inspirée pour construire cette protagoniste d'un témoignage réel. C'était une fille au Brésil qui, quand sa sœur est partie à l'Araguaia, elle avait 10 ans. Et ses parents, ils ont essayé de convaincre sa sœur, comme ils n'ont pas réussi...
De rester.
Comme ils n'ont pas réussi, ils ont demandé à la petite de le faire, de demander à sa sœur, reste. Et elle n'a pas réussi non plus, parce que l'autre avait un copain, un petit ami, et donc elle a décidé de partir. Et ils ne l'ont jamais retrouvée. Donc, cette fille est devenue une femme qui a ce poids d'une culpabilité qu'elle emmène partout dans sa vie. Elle ne peut pas vivre parce qu'elle se sent coupable de n'être pas capable de sauver sa sœur. Et ça m'a beaucoup inspirée pour créer Sophia.
Le personnage de Sophia.
Oui.
Alors Sophia, comme vous le dites, on la trouve à la rencontre vers la page 50. Elle vient de lire ce récit et une partie de ce récit. Et en fait, elle lit, mais elle ne sait pas qui a écrit. Parce qu'il y a un homme qui écrit, jeune, qui raconte qu'il est perdu. Et puis après, il y a une femme aussi qui écrit, qui prend la suite, c'est ça?
C'est ça. Et en fait, au départ, je voulais que la voix d'une femme. Mais je raconte plusieurs fois, j'ai tombé sur un épisode dans les récits réels que j'utilisais pour construire les miens fictionnels. J'ai tombé sur quelque chose qui était tellement intéressante que je ne voulais pas l'abandonner, mais ça n'allait pas avec ma protagoniste. Et c'était le cas quand il y a la pluie, les paysans ont appris, mon guerriero, qu'il pouvait aller dans une clairière et tuer les jabutis, les tortues brésiliennes qui se sèchent au soleil après la pluie. Il l'a fait, il a mangé les foies crues d'une tortue.
C'est bon, un foie de tortue.
Oui. Mais cru, c'est un peu...
Oui,
c'est un peu choquant.
Oui.
Et là, ma guerriera, elle est une fille un peu bourgeoise qui ne voulait pas laisser la maison de ses parents, qui avait... il lui manquait la douche chaude de sa maison, la lumière pour lire les soirs. Donc, elle n'était pas très à l'aise dans la forêt.
Elle est partie par amour, non?
Oui, elle est partie par amour, voilà. Comme cette personnage réel dont je me suis inspirée. Et donc, c'est là que j'ai pris la décision de créer deux personnages, un homme et une femme.
D'accord.
Parce que j'ai pensé, pour décrire les aventures dans la forêt avec les animaux, les serpents, les jaguars qu'on peut trouver dans la forêt amazonienne.
Oh, c'est quantité d'animaux. Hein.
Oui, c'est une quantité énorme d'animaux exotiques qu'il y a en Amazonie. Et là, il m'a fallu créer la voix d'un homme pour les décrire. Et c'est pour ça que j'ai... Pour avoir deux côtés, deux perspectives.
Deux sensibilités.
Deux sensibilités différentes par rapport à la forêt, par rapport à la guérilla et tout.
Oui.
C'est pour ça que j'ai créé deux personnages pour avoir ces deux points de vue, de l'homme et de la femme.
Alors lui est parti par idéal, elle, et on la prend un peu en pitié parce que dans le fond... ce qu'elle dit. Alors, vous permettez, nous essayons de nous mêler aux habitants et de faire tout ce qu'ils font. Les femmes m'ont conviée à des litanies, je les ai accompagnées à la messe, j'étais de façon inattendue très touchée par les cantiques, les gens les bras levés dans une louange à un Dieu si indifférent à leur réalité aride, à leur existence si dure. Je me suis mise à pleurer. J'ai essayé de le dissimuler, mais je n'ai pas réussi. J'ai dit aux camarades que j'avais pleuré devant l'espoir vain de ces paysans alors que leurs enfants meurent de malaria, que leurs familles sont les esclaves de ceux qui se prétendent propriétaires, des noyés, et que leurs terres sont volées par les grilleros. Mais ce n'était pas que ça. J'ai pleuré parce que je ne supporte plus. J'ai pleuré parce que d'un seul coup, j'ai compris que je veux m'en aller. Tout ça n'est pas pour moi. Pour changer, le commandant m'a fait la leçon. Ah, ce commandant, si je n'arrive pas à contrôler mes émotions, je vais les mettre tous en danger. Et en fait, elle dit très simplement qu'elle n'en peut plus, qu'elle a peur, elle en a ras-le-bol. En France, on dirait ras-le-bol.
Oui, c'est
qu'elle a peur et qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle est coupée de tout. Que faire? Et même ce cas-là, ce garçon, bon, il est perdu, c'est affreux la situation, mais même elle est touchante parce que c'est dramatique pour elle.
Oui, c'est vrai. Et ces déplacements, cette inadéquation, je dirais, à la forêt, à la vie si dure des guerriers, ça m'a aidé à montrer une réalité nuancée.
Oui.
Je ne voulais pas un livre qui montre les guerriers comme des héros.
Oui.
Je les voulais humains, faibles, des êtres comme nous, qui sont là et qui sont un peu perdus par cette situation.
Certains se rendent compte qu'ils ont fait une erreur.
Oui.
Ils se disent, qu'est-ce que je fais là maintenant? Et c'est son cas. Et en fait, Sophia lit cet ouvrage, ce cahier, ce récit, et ce sont des pistes qu'elle a.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, alors je vous laisse.
J'ai créé les romans un peu comme un roman polar.
Oui, une enquête.
Une enquête. Oui. Je voulais jamais embêter les lecteurs. J'espère que...
On ne s'embête absolument pas, Guillaume, je vous rassure.
Et de les faire suivre les pas de Sophia en direction de la vérité, de les faire profiter aussi de ses voyages. Elle va à Cuba, elle va à la forêt amazonienne, elle va à São Paulo, elle fait des enquêtes, elle interviewe les gens. Donc, c'est très mouvementé sa recherche. Mais en même temps, il y a toujours cette angoisse, cette recherche, c'est la recherche d'une Antigone.
Tout à fait. Tout N'est-ce à fait. Pas? Oui, on le dit, elle ne peut pas faire le deuil de son frère qui est peut-être vivant. Elle ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de corps.
Oui, et ça, c'est très important parce que vous savez, tous les gens, même ici en Europe, qui ont perdu un être cher ou qui connaissent dans leur famille des gens qui sont disparus dans la guerre, on attend toujours... une nouvelle de cette personne. Elle ne meurt pas pour nous parce que si on n'a pas encore à enterrer.
Oui.
Donc, c'est ce qui se passe avec Sophia et sa mère. Elles attendent toujours de découvrir qu'il est vivant, qu'en fait, tout ce qu'elles ont vécu, ce n'était qu'un cauchemar. Elles attendent que ça passe un jour.
Alors, Guillaumard, nous allons faire une seconde pause musicale. Et là, vous connaissez, je vous en ai parlé. Alors, j'ai le terme en anglais, ce qui est stupide de ma part. J'aurais dû le trouver en portugais. Waters of March. Qu'est-ce que c'est le titre?
As Águas de Março.
Ah, c'est bien plus joli.
Qui fait environ. Tu sais quoi, qu'est-ce que c'est? C'est la pluie. C'est la pluie, les eaux de mars qui ferment l'été.
Mais ça tombe bien, en Amazonie, il pleut beaucoup.
Oui, il pleut beaucoup.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. Fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. Caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado. É a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau. É João, é José. É um espinho na mão. É um corte no pé. são as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Guiomar de Gramont et nous venons d'écouter une très belle musique et de très belles paroles. Il s'agit de la pluie donc, c'est ça Guiomar? Évidemment, il pleut aussi beaucoup sur l'Amazonie. Et d'ailleurs, je dis à nos auditeurs qu'à la fin de votre ouvrage, il y a un lexique, un glossaire de mots. Et c'est très intéressant parce que votre livre recèle beaucoup de mots portugais ou de mots indiens sur les habitants, mais surtout sur les animaux, sur la nature même que l'on trouve en Amazonie. Alors, oui. nous parlions de...
Je vais vous raconter une chose, juste une chose. Sébastien Lapaque, il a écrit dans Le Figaro, il a fait un très bon article sur mon livre, et il a dit que c'est un très bon guide pour commencer à connaître l'Amazonie. Alors...
Quelque part, hein, oui. Quelque part, d'accord. Voilà, alors, on parlait de l'impact de la disparition. Là, il s'agit du frère de Sophia. Alors, d'un côté, on a ce cahier, mais on ne saura que plus tard qui a écrit dans ce cahier. Mais ça concerne aussi donc Sophia et la disparition de son frère. Et vous parliez de l'impact de cette disparition sur la famille, sur le père déjà. À un moment donné, elle dit « Bien qu'il y ait eu de l'amour, la distance entre son frère et elle était insurmontable. Sophia tarda à se rendre compte qu'il y avait en lui des larmes qui jamais ne se tariraient. » Plus tard, elle comprit que cela avait à voir avec son frère, mais c'était trop tard. Oui, il y a ceux qui gardent en eux leur douleur. Sa mère aussi, elle, sa mère qui ne vit plus. Alors, on parlait tout à l'heure de l'impact de la disparition. Et il y a cette anxiété que vous mentionnez constamment chez Sophia, liée à l'incertitude.
Oui. Et en fait, c'est une complicité qui s'installe peu à peu entre elle et sa mère. Et au départ, sa mère est renfermée en soi par la souffrance, n'est-ce pas? Elle ne parle pas, mais elle sait quelque chose. Elle a essayé peut-être de toucher Sophia, de parler avec elle, mais... Sophia, comme la plupart des jeunes, n'a pas su comprendre, n'a pas su écouter ce que sa mère voulait lui dire. Donc, ça se fait plus tard. Il y avait une non-communicabilité entre elles au départ. Et c'est pas à pas qu'elles vont, et d'après quelques révélations, très importante dans les livres, qu'elles vont se rapprocher autour de cette blessure pour pouvoir la guérir, pour pouvoir surmonter. Parce que mon livre n'est pas un livre sans espoir. Je crois que vous avez vu ça.
Du côté de Sophia, en tout cas. Du côté de la mère, je pense pour moi qu'elle n'a plus vécu. Elle a vécu dans l'attente, elle n'a plus vécu. Sophia, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on ne va pas parler de la fin, mais on sent quand même qu'il va se passer quelque chose. On ne peut pas en parler. Finalement, ce n'est pas un roman policier, mais on ne peut pas en parler. Mais la mère, c'est qu'elle ne s'occupe plus d'elle du tout, finalement.
Oui, c'est vrai. Elle est une poète et donc elle ressent les choses
très
beaucoup
fortement.
Plus fortement. Et bien sûr, c'est son fils. C'est la relation la plus forte qu'on peut avoir.
Et elle veut entretenir la mémoire aussi.
Elle veut entretenir la mémoire.
Si on l'oublie.
Elle a peur, en fait, de découvrir la vérité parce qu'elle a peur de découvrir qu'il est mort. Elle veut conserver l'espoir qu'il reviendra un jour. C'est ça.
Il paraît qu'il y en a qui disent « Mais si moi, je ne me souviens plus, qui se souviendra quand je ne serai plus là ?»
Oui, c'est ça.
Garder la mémoire.
Garder la mémoire. C'est un livre sur la mémoire, en fait. C'est,
oui, absolument.
C'est dans le centre du livre, cette mémoire.
Oui.
Vous vous rappelez le moment où Marcos parle de l'amnestie et l'amnésie, n'est-ce pas, de la relation entre l'amnestie qu'on a eue au Brésil.
Oui, qu'il y a eu au Brésil à l'égard de ces militaires.
Oui. Oui, on a l'amnestie, elle a pardonné, on n'a pas eu de procès, elle a pardonné. Tant aussi les tortionnaires que les résistants. Donc, on a les militaires et les guerriers ont été pardonnés. Plusieurs guerriers sont revenus de l'exil. Mais, en fait, l'amnestie a fait que les pays est devenu un peu arrasé son passé récent.
Et ça reste comme un cancer.
Ça reste comme un cancer, c'est ça.
Oui.
Et je crois que c'est la source des problèmes qu'on a aujourd'hui.
Oui, même, vous savez,
cancer.
En pays Hutu et Tutsi, au Rwanda, c'est exactement ce problème actuellement aussi.
Ah, j'imagine que c'est pareil.
Chez Sophia, moi, je dirais que quand on la rencontre, elle a une sorte de dépression.
Oui, oui. Elle n'a pas une vie. Elle s'est pas mariée. Elle n'a pas trouvé vraiment un confort dans sa profession. Il y a quelque chose en elle qui ne va pas, un nœud en elle, à son intérieur.
Oui.
Et il faut qu'elle commence cette recherche vraiment pour pouvoir vivre. C'est comme un pays. Marcos parle aussi d'Anna Arendt. Vous vous rappelez.
Tout à fait.
Parce qu'Anna Arendt, elle parle du pardon, que ce n'est pas un pardon chrétien, son pardon. C'est une société. Et il faut qu'elle découvre la vérité et qu'elle fasse un récit sur la vérité.
Que ce soit dit.
Oui, que ce soit dit pour qu'elle ne tombe pas dans ces silences qui restent comme un poids, qui nous empêchent de vivre, comme c'est que se passe avec Sophia.
Comme une blessure qu'il faut ouvrir pour bien la soigner.
Oui.
Et d'ailleurs,
un peu comme la catharsis dans la psychanalyse, n'est-ce
Exactement. Et d'ailleurs, dans son enquête, elle découvre des tas de choses, parce que d'un côté, effectivement, il y a les tortionnaires, ceux qui étaient le bras armé de la dictature, mais elle découvre aussi que chez les jeunes insurgés, chez les insurgés, il y a eu des crimes.
Oui.
Vous le dites.
Oui.
Hein? Donc, elle est très clairvoyante elle-même. À ce moment-là. Elle sait bien qu'il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre aussi, pas toujours.
Oui, moi, surtout, s'il y a un message dans les livres, dans mon livre, c'est un message pacifiste. Je suis contre les armes. Je trouve qu'elles devraient être supprimées dans le monde entier. J'espère qu'un jour, dans le futur, on le fasse.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai mis cette version, ces versions qui se croisent, si nuancées, pour montrer l'autre côté. Si on prend la décision de lutter avec les armes, on peut blesser les gens qu'on aime
Bien sûr. Oui, alors, pour terminer, on va peut-être parler de Marcos, parce que pour moi, c'est une lueur dans l'obscurité de Sophia.
Oui.
Bon, elle n'a pas de relation, on n'entend pas parler de fiancée, de mari, pas d'amie féminine. Elle est seule dans sa recherche obstinée. Elle a un job, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est écrivaine.
Elle est journaliste.
Journaliste, voilà. Mais elle l'abandonne à un moment donné. Enfin, elle est surtout... Et elle a quand même un point fort, c'est Marcos.
C'est Marcos. Marcos, c'est un ami philosophe. Et on a l'impression qu'il attend le moment d'avoir une relation, de pouvoir avoir une relation des fiançailles avec elle, n'est-ce pas?
Mais oui, on le devine.
Mais on les devine. Parce que c'est vrai, elle, dans sa recherche à Sofia, il n'y a pas de place pour l'amour. Il faut qu'elle résoudre d'abord ces problèmes-là.
Pour passer à autre chose.
Pour passer à autre chose, ça.
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est tous les témoins qu'elle va rencontrer, ceux qui étaient dans l'armée, ceux qui étaient des guérilleros, ceux qui ont connu son frère, ceux qui ont participé à des actes répréhensibles, par exemple, tuer quelqu'un qui voulait partir, ça c'est terrible comme poids, ceux qui ont trahi, et tout ça fait elle avance pas à pas et elle découvre tout cela. Et tout s'éclaire. Avant, c'était une masse souvent confuse. Et tout petit à petit, elle arrive à voir clair et à avancer. Pour moi, elle est dans une forêt et elle arrive à trouver un chemin.
C'est vraiment ça, exactement ça. Elle découvre quelque chose. Elle découvre, bien sûr, il y a la révélation finale qui est très importante, fait. Vraiment quelque chose qui est déjà un début d'une autre vie, n'est-ce pas?
C'est porteur de vie, exactement.
Oui.
Exactement.
J'ai beaucoup aimé cette interprétation que vous êtes en train de m'offrir maintenant, que c'est comme si elle était déjà dans la forêt. La forêt est toutes ces choses qui sont cachées pour elle, qu'elle essaye de dévoiler pour découvrir.
Et pour progresser.
Pour progresser.
Alors, Guillaumard,
arriver à cette clairière.
Arriver à cette clairière, exactement. Mm-hmm. Guillaumard de Gramont, pour terminer, on parle aussi de votre manière de construire le livre qui est très intéressante, parce que justement, ce n'est pas linéaire, mais il y a justement un entrelac. Je dirais que c'est des chemins dans la forêt, on va revenir à la forêt. Et en fait, c'est petit à petit, on en a parlé en début d'émission, c'est petit à petit que nous arrivons, nous aussi, à progresser avec elle.
Oui, c'est un roman. Et au Brésil, le roman s'appelle « Palavras cruzadas », que c'est le mot croisé. Quand on fait un mot croisé dans ces petits carnets qu'on achète, il y a des vides qu'on remplisse, n'est-ce pas? L'effort de Sofia de remplir les vides. J'ai beaucoup aimé le titre du livre en français, Les ombres de la Araguaia.
Les ombres de la forêt.
Oui.
En tout cas,
il nous attire à rentrer dans les livres. La Araguaia, c'est la rivière aussi.
D'accord.
Et c'est cette rivière qui passe en Amazonie, passe par perpendiculaire à la...
Elle
traverse l'Amazonie.
D'accord.
Et c'est aussi Sofia, elle suit les flux de cette rivière.
Oui, c'est un chemin, une forme de... Oui. Alors, on peut également, vous m'y faites penser, dire bravo à Daniel Schramm qui a traduit votre roman. C'est très bien traduit.
J'adore la traduction de Daniel Schramm. C'est surtout elle qui a fait le glossaire.
Un grand merci.
Qui accompagne les livres.
En tout cas, un grand merci à vous pour ce très beau roman. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit des Ombres de l'Araguaia, édité chez Métayer, et nous venons d'avoir le plaisir d'entendre Guillaumard de Gramont, son auteur. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.